Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la datacratie, le locavorisme, l'antispécisme, la charge mentale, l'ubérisation et Étienne Dao. Point commun, ils entrent tous dans le petit Larousse 2020. Beaucoup de mots en lien avec l'écologie et les nouvelles technologies. Petite liste dans un instant. Touche pas à mon appart, beaucoup plus difficile de trouver un logement si tu t'appelles Mouloud que Martin. SOS Racisme vient de réaliser un nouveau testing. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Dans ce journal, Claire, avec vous, on parle des agences immobilières.
Oui, un peu moins de 100 agences franciliennes ont été contactées ces derniers mois par la petite cellule de testing d'SOS Racisme. On découvre que plus de la moitié enfreignent la déontologie et la loi si un propriétaire le leur demande. Vous allez l'entendre, les enregistrements de ces échanges téléphoniques réalisés par l'association sont assez édifiants.
Détail tout à l'heure. Les clubs de foot les plus riches auront-ils la peau de l'incertitude du sport? Un projet de Ligue des Champions quasiment réservé à certains clubs crée la polémique dans le monde du foot. Il y a 2 ans, l'élection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Aujourd'hui, la liste du Rassemblement National est en tête dans les intentions de vote aux européennes. Alors l'extrême droite est-elle aussi forte, voire plus forte qu'il y a 2 ans? Notre invité est l'historien spécialiste de l'extrême droite, Nicolas Lebourg. Dans ce journal encore, nous irons en Afrique du Sud à la veille des élections générales. Le parti de Nelson Mandela ne fait plus rêver les jeunes. L'actualité de la santé, les jeunes médecins travaillent moins que leurs anciens confrères. Et la chronique santé de Daniel Messager, les bébés secoués, des drames beaucoup plus fréquents qu'on l'imagine. Et puis c'est la journée mondiale de l'asthme, ce sera au programme de la tête au carré tout à l'heure. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que dit Météo France aujourd'hui?
Eh bien la calmie temporaire se poursuit aujourd'hui, mais avec un soleil de plus en plus voilé. Ce voile nuageux qui s'épaissit est annonciateur de l'arrivée d'une perturbation atlantique bien active qui traversera le pays d'ici à demain. Sur les régions de l'ouest, on aura déjà quelques pluies cet après-midi, mais c'est surtout ce soir que les pluies deviendront plus régulières, en s'accompagnant même d'un vent fort. Les températures sont elles de saison, de 14 à 24 degrés du nord-est au sud-ouest.
Eh bien, nous irons chercher le soleil à Madrid, à l'heure où Roger Federer retrouve la terre battue à 3 semaines de Roland-Garros. C'est évidemment du tennis. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
C'est amusant, c'est instructif, c'est l'air du temps, les nouveaux mots du dictionnaire. La fournée Larousse 2020 est arrivée. Bonjour Jacqueline Pétrose.
Bonjour Bruno.
Il nous parle beaucoup d'écologie, ces nouveaux mots, Jacqueline.
Oui, on trouve par exemple le très sérieux principe pollueur-payeur, oui. En espérant d'ailleurs qu'en entrant dans le Larousse, il soit plus souvent suivi des faits. La dédieselisation,
vous l'avez dit,
qui est la fin du diesel. Le locavorisme dont vous avez parlé, qui est le choix de consommer des produits locaux au plus près de chez nous. Et puis l'antispécisme dont on parle beaucoup, qui est pour l'égalité des espèces. Et à la marge, on peut aussi parler de la bigorexie, qui est l'addiction au sport. Et là, on ne fera pas de commentaires.
Beaucoup de mots à propos des nouvelles technologies, évidemment.
On a même l'embarras du choix, en fait. Ubérisation, détox, co-travail, le féminin de geek qui devient geekette. Alors, on appréciera, ou plutôt on pourra liker ou non. La vapoteuse s'impose, mais entre aussi le hackathon, une réunion de spécialistes pendant plusieurs jours autour d'un projet collaboratif de création informatique ou numérique.
Ça parlera à notre invité Nicolas Lebourg. Il est aussi question de fachosphère dans cette édition 2020 du Larousse. Des mots venus de région ou de francophonie, Jacqueline?
Alors, voilà, là on peut s'amuser. On a biloute, bien sûr, ouais. Déjà dans le langage commun depuis les films de Danny Boone. On peut se boujouter comme les Normands ou se poutouner comme dans le Midi. C'est s'embrasser sur les joues pour se dire bonjour. On peut se douciner comme dans les Antilles. C'est se cajoler. On peut aussi coulquer comme en Bretagne. Et là, c'est se goinfrer. Enfin, il n'est pas conseillé de divulgâcher, comme disent les Québécois, la fin d'un film ou d'un roman.
Et avec tout ce que vous nous proposez, on est benaise. Ça, c'est dans l'Ouest ou en Charente. Des noms propres, évidemment, font leur entrée.
Alors, les incontournables footballeurs de l'année, hein, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Didier Deschamps arrivent. Mais on trouve aussi Tom Cruise, Terry Gilliams, Patrick Grinville et Régis Geoffrey, les écrivains, Marc Vera, le restaurateur, et puis les inconnus. Ça fait plaisir à toute une génération. Et puis la nouvelle académicienne, plus sérieusement, la philosophe Barbara Cassin, entre dans le Larousse et c'était la marraine de cette nouvelle édition 2020.
Et Étienne Dao, dont j'étais persuadé qu'il était dans le
Larousse déjà depuis longtemps.
Belle lurette, ça n'était pas le cas. Merci Jacqueline Pétrose. Le détail, on le retrouve sur franceinter.fr. Pour le dire très directement et un peu vulgairement, il est plus difficile en France de trouver un logement quand on est noir ou arabe. Vous allez dire, ça n'est hélas pas une nouveauté. La nouveauté, c'est qu'à travers une campagne de testing, SOS Racisme révèle l'ampleur du phénomène. Alors Claire Chaudière, dans la matinale ce matin, vous dévoiliez une partie de cette enquête qui concerne les plateformes sur Internet, de particulier à particulier, Le Bon Coin. Les détails, là aussi, sont toujours sur franceinter.fr. Deuxième volet, les agents immobiliers. 90 agences ont été testées.
Oui, les militants et experts juridiques de l'association ont cette fois appelé des agences immobilières en se faisant passer pour des propriétaires souhaitant mettre un bien en location. Jusqu'ici, tout va bien, mais avec des exigences discriminatoires. Eh bien, résultat tout de même assez ahurissant. 51% des agences acceptent de discriminer pour le compte de leurs clients fictifs. Écoutez cet extrait, enregistrement d'un agent immobilier du réseau Guy Hoquet, épinglé par une testeuse SOS Racisme. La voix de l'agent a été légèrement modifiée.
Moi, j'ai pas envie d'avoir de soucis du coup avec les locataires. Je me demandais, est-ce qu'on peut privilégier certains types de communautés par rapport à d'autres ?
Bien sûr, sans le dire à personne, bien entendu. Oui. Ne vous inquiétez pas, ça reste entre nous, mais on a beaucoup de locataires comme ça.
Je peux pas que je le mette par écrit, quoi, mais je peux vous le dire.
Non, vous me le dites oralement, c'est tout ça, tu verras. Parce qu'en fait, si vous voulez, si on l'écrit, oui. Ce sera de la discrimination.
D'accord.
Donc on se le dit oralement, vous me dites voilà, je veux pas que ce soit un nom maghrébin ou voilà. On fera en sorte voilà, de sélectionner les dossiers.
D'accord, pas de problème, ok.
Alors, la direction de Guy Hoquet, que nous avons contacté, se dit particulièrement choquée, remercie officiellement SOS Racisme et cherche à savoir quelles agences sont concernées pour mettre en place d'éventuelles sanctions si les faits sont avérés. L'association, elle, demande plutôt des sanctions plus générales contre les agences qui ne formeraient pas suffisamment leurs salariés. Approbation du côté du défenseur des droits. Slimane Laoufi est en charge des questions de discrimination dans l'accès au logement.
50% des agences, c'est quand même énorme. Bon, moi, je dirais qu'il y a quand même une bonne part de dérives individuelles où on plie aussi sur les exigences peut-être du propriétaire. D'où l'importance de la formation par rapport aux professionnels qui sont tenus quand même à des obligations déontologiques aussi.
Une commission de déontologie, justement, avait été créée il y a quelques années à cet effet à travers la loi Allure. Elle ne s'est jamais mise en place. Elle a été récemment supprimée dans le cadre de la récente loi Élan sur le logement.
Bonjour Nicolas Lebourg.
Bonjour.
Historien, spécialiste de l'extrême droite, on va parler des partis politiques, des courants politiques avec vous dans un instant et voir que l'extrême droite est toujours encore bien présente dans le paysage. Est-ce qu'il faut faire un lien entre ce qu'on vient d'entendre et la puissance qui reste réelle de l'extrême droite politique ?
Ah, l'extrême droite, bien évidemment, si vous avez l'idée qu'il y a un remplacement de population, si vous avez l'idée qu'il faut résister à l'invasion islamisation de la France pour reprendre ses slogans, bien évidemment, ça va vous amener à des attitudes discriminatoires parce que vous ne les voyez pas négativement, vous les voyez comme une protection personnelle contre cette invasion.
Alors nous sommes 2 ans exactement, Nicolas Lebourg, après l'élection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Nous sommes à 3 semaines des élections européennes. Vous venez de publier ce livre qui s'appelle « Les nazis ont-ils survécu ?» C'est aux éditions du Seuil. Il y a 33 listes aux européennes et on a une vaste offre d'extrême droite. Tiens d'ailleurs, petite question technique. On met le Rassemblement National, Florian Philippot. Est-ce qu'on met la liste de Dupont-Aignan et de François Asselineau à l'extrême droite ?
Alors, vaste question. Moi, j'ai tendance à définir l'extrême droite par 2 points essentiels. Le fait d'être extrême droite, quel que soit le courant, c'est de croire dans une société organique, vouloir constituer une société comme un corps humain, d'une part, et de vouloir refonder l'ordre géopolitique. Et si vous prenez les exemples auxquels vous pouvez penser, les nazis jusqu'aux populistes d'aujourd'hui, vous voyez que ça va. Est-ce que c'est le cas du Dupont-Aignan et d'Asselineau ? Il me semble pas. Il me semble qu'ils se tiennent à la limite avant.
Est-ce que c'est le cas des listes gilets jaunes ?
Alors les listes gilets jaunes, pour l'instant, peut-être que le message est peut-être à affiner de leur part pour qu'on puisse mieux les situer. C'est peut-être plus du côté de l'offre là que ça doit s'affiner que de la réception.
Nicolas Lebourg, il y a 2 ans, Marine Le Pen était au 2e tour de l'élection présidentielle. Au 1er tour, elle avait fait 21%. Là, dans les dernières études d'opinion, les intentions de vote, le RN est à 22%, juste devant. C'est dans la marge d'erreur, juste devant la majorité. Ça veut dire que le Front National, devenu Rassemblement National, est toujours aussi fort 2 ans après.
Les raisons structurelles qui avaient amené à un moment un écroulement du Front National il y a 10 ans quand Sarkozy l'avait battu, ont fait que le Front National est revenu. C'est pas le talent de Marine Le Pen juste en soi. C'est en particulier la question de l'aménagement du territoire dans ce pays et de la condition des classes salariées du secteur privé basse, de ces classes basses, qui provoquent le vote FN. Donc ces questions structurelles, c'est normal qu'elles reviennent. C'était pas Sarkozy, c'était pas le mauvais débat de Marine Le Pen qui pouvait évacuer la question du Front National. Marine Le Pen avait tenté de créer une offre politique qui c'est pas juste des raisons sociologiques pour qu'on vote FN. On voit très bien aujourd'hui qu'elle revient à un parti de la demande qui répond aux attentes de ses électeurs sans aucune prise de risque. Il y a donc le résultat sociologique normal qui devrait arriver.
Ça veut dire que les facteurs structurels sont tellement forts que quels que soient les aléas, les déclarations, les débats ratés, le Rassemblement National est à un niveau élevé.
Ça me paraît tout à fait rationnel. Ça paraît rationnel aussi parce que depuis le début des années 80, les motivations des électeurs du Front National restent les mêmes dans leur expression. Ils vont dire que c'est à cause de l'immigration, que c'est pour la préférence nationale. Mais derrière ça, on voit bien, je vous dis en particulier, cette question de l'inégalité des territoires. Mmh. Et vous le savez comme moi, quand le Front National fait un super score aux élections locales, le premier soir, le premier tour, on regarde la carte à 20h, on se dit, on retrouve tous les problèmes de l'aménagement du territoire de ce pays. À 20h03, on débat de l'islam.
Alors, parmi les 33 listes et celles d'extrême droite, il y en a deux qui sont qui incarnent l'extrême droite la plus radicale. Je voudrais qu'on en parle avec vous. D'abord, on écoute ce que disent les représentants de ces listes avec Maxence Lombrec.
Ne vous fiez pas à son nom. Derrière la liste, la ligne claire, se trouve le théoricien du grand remplacement, Renaud Camus. Déjà condamné pour provocation à la haine contre les musulmans, il a décroché son ticket pour les européennes en réunissant 79 amis et peut ainsi propager ses discours extrémistes.
Je crois que le combat n'est pas seulement contre l'islam et contre l'islamisme, qui est certes une circonstance très aggravante, quitte à changer de peuple, on aurait pu tomber peut-être sur des peuples et des cultures plus accommodantes, mais c'est le changement même de peuple, de civilisation, ce que j'ai appelé le grand remplacement, qui constitue le danger principal de l'Europe.
Et sur la liste de Renaud Camus, on retrouve un ancien du FN, Karim Ouchik, conseiller régional d'Île-de-France. Ces européennes offrent aussi une vitrine à un leader identitaire sulfureux, Vincent Vauquelin. Il porte la liste La Reconquête pour une France blanche et ose comparer sur Radio Liberté les immigrés à des insectes.
Quand vous avez beaucoup de moustiques chez vous, vous pouvez tuer chaque moustique un par un, ou alors vous éteignez la lumière. Donc il va s'agir d'éteindre la lumière, c'est-à-dire de couper les pompes aspirantes de l'immigration. En gros, ça va être ça.
La règle des 500 parrainages permet d'éviter ce genre de candidature à l'élection présidentielle. Pour les européennes, il n'y a aucun prérequis.
Et on précise que sur les 33 listes, toutes n'iront sans doute pas au bout jusqu'au 26 mai. Il y a un public à la fois pour constituer des listes et pour voter pour des propos ou des personnalités comme ce qu'on vient d'entendre là, Nicolas Lebourg.
Alors, très belle question. Renaud Camus s'était déjà présenté à des élections européennes. Au moment où on votait par région, il avait fait 0,05% des voix. À côté, le Front National, dans cette région-là, ramassait le tiers des voix. Donc, on voit bien que le Front National est perçu par les électeurs comme la parole la plus légitime sur ces questions-là, par son antériorité, par le fait aussi d'avoir un discours moins choquant de prime abord. On a ici, avec cette liste, ou bien avec la liste du Parti de la Reconquête, de la dissidence française, en fait, des lignes qui nous rappellent, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire politique, le Rassemblement européen de la liberté dans les années 1960, et pareil, on est à 1% des suffrages. Mmh. Quand le Front National décide, à la fin des années 70, la ligne anti-immigration sur le slogan 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrants en trop, c'est François Duprat, le numéro 2 du parti qui invente ça, il envoie des notes internes où il dit que justement il veut la disparition de tout tract de ce type-là, de toute trace laissant penser à des questions ethniques, en disant on restera sinon des groupuscules.
On peut être européen, je veux dire politiquement, et d'extrême droite.
Ah, tout à fait. Dans les plus grands théoriciens de l'Europe, on a des théoriciens de l'extrême droite radicale. Deux exemples. L'Europe des régions, c'est inventé par Otto Strasser, qui est un des principaux cadres du parti nazi avant qu'il parte en 1931. Jean Thiriard, c'est un Belge qui milite pour une grande Europe avec un État jacobin où tout le monde aurait les mêmes droits, qui couvrirait en fait une partie de l'Afrique, l'Europe, une partie de l'Asie, et dont la capitale serait Istanbul. Vous voyez qu'on n'est pas chez les souverainistes.
Pourquoi dites-vous qu'Emmanuel Macron joue un jeu dangereux à vouloir résumer la bataille à lui contre l'extrême droite ou à cette tendance, ces deux tendances-là au niveau européen?
Il me semble, et je le crains, que la montée, ce qu'on appelle la montée des populismes, c'est largement un épuisement des offres politiques en Europe depuis la crise de 2008. Et que de jouer à pousser ce curseur pour dire qu'il n'y a plus le choix contre les eurolibéraux, c'est-à-dire en gros ceux qui n'ont pas tiré les leçons de la crise de 2008, et l'extrême droite, on épuise la démocratie et on épuise les démocrates.
Merci beaucoup Nicolas Lebourg d'être venu dans les studios de France Inter répondre à nos questions. Je précise qu'on vous retrouve dans l'émission d'Ali Badou samedi prochain, Le Grand Débat. Et il y a ce livre, Les nazis ont-ils survécu, aux éditions du Seuil. Édouard Philippe, le Premier ministre, a dressé un bilan au moins partiel des mesures d'urgence prises ces derniers mois en réponse à la crise des Gilets jaunes. Petit extrait de son intervention il y a quelques minutes.
Le pouvoir d'achat moyen par habitant va progresser de plus de 2% en 2019. C'est la plus forte augmentation de pouvoir d'achat depuis 12 ans. C'est un gain moyen de 850 euros sur l'année par ménage. Et ça n'est pas l'estimation du gouvernement, c'est l'estimation de l'OFCE, qui, comme chacun sait, est un organisme indépendant du gouvernement. Sur ces 850 euros, il y en a 390 qui découlent des mesures annoncées par le président de la République le 10 décembre dernier.
Hausse du pouvoir d'achat moyen de 2% en 2019, selon le Premier ministre, c'était donc ce matin. Encore un petit mot pour vous dire que dans l'enquête sur les ristournes du groupe UMP au Sénat, ristournes entre guillemets, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, est placé sous le statut de témoin assisté.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Dans l'actualité internationale, des élections législatives demain en Afrique du Sud. L'ANC, la formation de Nelson Mandela autrefois, devrait en sortir vainqueur, mais une partie de la population, la jeunesse notamment, s'en détourne. Ces jeunes électeurs qui n'ont pas connu l'apartheid. Pour France Inter, reportage de Claire Bargelès à l'université de Johannesburg.
À la sortie du campus, difficile de rater les affiches multicolores des différents partis, mais les étudiants n'y font pas attention. Nongui, 21 ans, a préféré bouder ce scrutin plutôt que de voter pour la première fois.
J'ai l'impression que nous, les jeunes, nous ne sommes pas entendus. Ils nous parlent d'un avenir meilleur, mais moi je ne vois rien venir. Je ne vois aucune opportunité pour les jeunes. Les gens continuent à voter, mais on ne voit rien changer.
Fanny, étudiante de 27 ans, n'a lui pas encore fait son choix, mais contrairement à ses parents, il ne donnera pas sa voix à l'ANC, le parti historique de Nelson Mandela.
Ils continuent à nous promettre les mêmes choses qu'il y a des années. Les personnes plus âgées, elles ont connu l'apartheid, alors elles sont toujours très attachées à l'ANC. Mais nous, on a d'autres attentes.
Quant à Luzuko, il a beau étudier les sciences politiques, il est dubitatif face au choix qui lui est proposé.
Les partis eux-mêmes sont un peu confus. Il y a l'ANC qui a un bon leader, mais le parti est corrompu. Ce sont de nouveaux scandales chaque semaine. L'Alliance démocratique, il y a beaucoup de lutte interne là-dedans. Et le parti EFF, ils sont un peu trop radicaux. Tout ça, c'est confus.
Des jeunes aussi découragés par les perspectives d'avenir, puisqu'ils sont davantage touchés par le chômage, qui concerne 27% de la population. Johannesburg, Claire Bargelès pour France Inter.
En Birmanie, petite et éclatante tout de même, victoire pour la liberté de la presse. La libération de deux grands journalistes de l'agence de presse Reuters, tous deux prix Pulitzer notamment. Ils ont passé plus de 500 jours en détention à cause d'une enquête sur le massacre des musulmans Rohingyas en Birmanie. Et le régime birman a tout fait pour les enfoncer. Ils ont finalement été libérés. Sarah Bagaloglou.
Le sourire aux lèvres et un pouce levé, les deux reporters de l'agence Reuters se sont sortis de prison ce matin, entourés d'une foule de journalistes. Et après 500 jours de détention, la détermination à exercer ce métier est restée intacte chez Wallon.
Je remercie tous ceux qui ont souhaité notre libération au sein de la prison et dans le monde entier. Je suis très heureux et excité de revoir ma famille et ma collègue. Je suis impatient de retourner au travail, je suis journaliste et je continuerai de l'être.
Arrêté en décembre 2017 pour atteinte au secret d'État, les deux journalistes ont toujours dénoncé un complot, ce qui avait été confirmé par l'un des policiers lors du procès. Il avait révélé avoir reçu l'ordre de donner des documents confidentiels aux journalistes, puis de les arrêter. Des révélations qui n'avaient pas empêché les deux hommes à être condamnés à 7 ans de prison. La libération de ce mardi intervient dans le cadre d'une large amnistie présidentielle et après une forte pression de la communauté internationale. Une pression qui jusqu'à présent n'avait pas semblé efficace auprès des autorités birmanes, dans un pays où près de 31 journalistes ont été poursuivis en justice sous le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Rangoon, Sarah Bakaloglou, France Inter.
En France, 62 tombes d'un cimetière à Val-Benoîte, à Saint-Étienne. Cimetière de Val-Benoîte à Saint-Étienne ont été profanées hier soir. Trois jeunes femmes qui ont de 14 à 19 ans sont en garde à vue. Sauf à apprendre de nouvelles informations, l'histoire de cette femme qui s'appelle Camélia est pour le moins étonnante. 34 ans, nationalité espagnole, elle vit en France depuis 17 ans. Elle était présente à la manifestation du 1er mai dernier à Paris avec un masque à gaz, un bouclier. À cause de ces deux objets, elle est sous le coup d'une expulsion du territoire français. Racontez-nous ce que l'on sait de cette histoire, Mathilde Deimi.
Avant la manifestation, Bruno, Camélia se rend à un pique-nique citoyen pour le climat quand elle est arrêtée tout près de Montparnasse. Elle porte effectivement un bouclier violet sur lequel est écrit « Je suis une utopiste pacifique, cela ne sert qu'à me protéger, je ne vous attaquerai pas ». Et effectivement également un masque à gaz supportant mal, dit-elle, les effets du lacrymogène. S'ensuit une garde à vue qui se termine au bout de 35 heures, raconte-t-elle.
Un officier se présente dans la cellule, me dit « Vous avez été relaxé de tous les faits qui vous sont reprochés. Votre garde à vue se termine à 21h. J'étais heureuse, je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir rentrer chez moi, dormir dans mon lit ce soir. Et là-dessus, il continue en disant, vous êtes également sujet d'une expulsion et d'une interdiction de territoire et vous êtes tout de suite amené au centre de rétention administrative.
Pas de poursuite, le parquet classe l'affaire, mais la préfecture lance cette autre procédure d'expulsion. 2 jours enfermée de nouveau, une rétention irrégulière, dit le juge des libertés et détention. Elle est désormais libre, Camélia, mais risque l'expulsion pour notamment menace à l'ordre public. Serge Slama est professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes.
Il n'y a absolument rien de légal dans cette décision. Il lui reproche une charge déraisonnable sur le système d'assurance sociale française alors qu'elle est là depuis 2002 et qu'elle travaille à l'INCDI. D'autre part, il reproche une menace à l'ordre public qui ne semble pas du tout être caractérisée. C'est une décision totalement absurde, totalement illégale. La préfecture de police de Paris a perdu tout le sens de l'application du droit de l'Union européenne.
Depuis une dizaine d'années, ce type de procédure augmente, poursuit Serge Slama, à l'encontre des Roms notamment, mais il dit ne l'avoir jamais vu pour des profils comme celui de Camélia.
Merci Mathilde Dehimi. On peut raconter la société à travers les mots, on l'a fait avec le Larousse tout à l'heure, ou à travers les chiffres. Les spécialistes de statistiques au ministère de la Santé publient une batterie de chiffres sur la vie des médecins. 2 chiffres clés, le temps moyen d'une consultation est de 18 minutes, durée hebdomadaire de travail 54 heures pour les médecins généralistes, ce qui cache une disparité entre les jeunes médecins qui travaillent beaucoup moins que les plus anciens. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
La chronique santé avec vous comme chaque mardi. Il y a quelques jours, un rapport révélait qu'un enfant mourait tous les 5 jours des suites de maltraitance au sein de sa famille. Et encore, dites-vous, ce chiffre est sous-estimé.
Oui, et chez les moins de 1 an, il s'agissait en majorité de bébés secoués, dont, dans la famille, les pères sont les principaux responsables. Ce syndrome du bébé secoué, longtemps ignoré, est davantage connu maintenant, même s'il y a encore du travail de formation à faire, parce que les lésions dans le cerveau sont caractéristiques et ne peuvent pas avoir été provoquées par une chute, par exemple, comme le disent les parents ou la nourrice. Le docteur Anne-Laurent Vanier est neurologue, spécialiste de ce syndrome. Elle a présidé le groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur ce sujet.
On a pu montrer que ces lésions-là ne pouvaient correspondre qu'au syndrome du bébé secoué. On a vraiment étudié toute la littérature, on a demandé l'avis d'experts, ça peut absolument pas être dû à un jeu, une chute de faible hauteur, une manœuvre de réanimation, ça peut pas. Enfin, il y a 2 points essentiels qui ont été mis en avant, c'est d'une part l'extrême violence du geste, et d'autre part, alors un autre élément essentiel, c'est la répétition. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas bien connu. On pensait que c'était un coup de tonnerre dans un ciel serein, or en fait c'est répété. Et comme c'est répété, eh bien c'est très important pour les médecins de détecter la violence le plus tôt possible pour éviter que ça ne recommence.
Ça veut dire que c'est pas arrivé qu'une seule fois ?
Le plus souvent, non.
D'où l'importance d'un repérage précoce. Est-ce que les professionnels sont bien formés ? Daniel, vous avez posé la question au docteur Anne-Laurent Vanier.
Eh bien non. Et ça a été l'objet d'un article là qui vient de paraître et qui montre que la moitié environ des médecins pensent qu'en jouant avec un enfant, on peut créer les lésions du syndrome du bébé secoué, ce qui est faux. La moitié des médecins ne savent pas que c'est un geste toujours violent et 60% des médecins ne savent pas que c'est un geste répété. Et ce qui fait la gravité du syndrome du bébé secoué, c'est que ça touche le cerveau. Et il y a plus de 10% des enfants qui meurent et plus de 3/4 des enfants survivants qui gardent des séquelles pour toute la vie. Et on s'aperçoit que les bébés qui sont secoués ne sont pas forcément des bébés qui pleurent beaucoup. Et je pense qu'il y a des seuils de tolérance qui sont très 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 variés. Et que certains adultes secouent un bébé alors que le bébé ne pleure que simplement pas au bon moment.
Alors on l'a entendu, ce sont plus souvent des actes répétés, mais ce que les professionnels disent pour aider certains parents angoissés qui auraient peur sous le coup de la fatigue ou autre de commettre un geste irréfléchi, eh bien si vous ne supportez plus les pleurs d'un bébé, alors s'il n'est pas malade, s'il n'a pas faim, posez-le dans son berceau, il ne risque rien et sortez de la pièce le temps de retrouver un peu de sérénité.
Merci Daniel Messager, on retrouve votre chronique sur franceinter.fr. Dans l'actualité encore, la mort de Jean Vanier, il avait fondé la communauté de l'Arche et milité inlassablement tout au long de sa vie pour que nous changions notre regard sur les personnes handicapées. L'actualité du sport se joue à Madrid aujourd'hui. En football, cette question, le fric va-t-il prendre encore davantage le pouvoir et tuer un peu plus la glorieuse incertitude du sport et les petites équipes ? Aujourd'hui à Madrid, 150 clubs européens se réunissent pour voir comment lutter contre le dernier projet en date des plus gros clubs du style du Real Madrid ou du PSG. Ce projet, c'est de transformer la Ligue des Champions, la plus grande coupe d'Europe, en une machine à cash et une ligue fermée. Plus de matchs, plus de matchs à la télé et plus de garanties offertes aux clubs riches de la disputer tous les ans, cette Ligue des Champions. Eh bien, Bernard Caillazzo est à la fois dirigeant du club de Saint-Étienne et du syndicat Premier League. Cette nouvelle Coupe d'Europe, il n'en veut pas.
80% de nos clubs rejetteront une réforme qui entraînerait une diminution des droits télé domestiques au profit des droits télé européens. On sait que le football européen est dirigé par 4 grands clubs, Bayern, Juve, le Real et le Barça. En fait, ce qui n'est pas très moral sur le plan sportif, c'est de vouloir fermer un système, c'est-à-dire faire en sorte que les participants à des, une sorte de Coupe d'Europe, qui deviendrait une sorte de championnat d'Europe, eh bien, soient toujours les mêmes. Ce qui est très grave, c'est que celui qui gagne en France ne joue pas les compétitions européennes, et c'est d'autres qui les jouent comme une sorte de rente automatique. Bon, c'est un système de riches qui profite aux plus riches. Ça devient de l'injustice. On ne peut pas s'assurer un système où la compétition n'est pas remise en cause tous les ans. Le sport, c'est aussi de se remettre en cause. Et d'ailleurs, le sport progresse parce que on se remet en cause. C'est pas parce que le Bayern se balade dans son championnat ou la Juventus se balade dans son championnat comme le Barça ou Real qu'il faut assurer des systèmes de rente pour l'éternité. C'est pas une bonne approche.
Un propos recueilli par Fabrice Abgral en Ligue des Champions ce soir. Demi-finale retour Liverpool-Barcelone. 3-0 pour le Barça à l'aller, doublé de Messi. Demain, Ajax d'Amsterdam-Tottenham. 1-0 pour l'Ajax à l'aller. Barcelone a son Messi, mais Madrid accueille un seigneur cette semaine. Roger Federer descend sur terre, la terre battue. Il participe au tournoi de Madrid, 3 semaines avant Roland-Garros. Depuis 2016, il faisait l'impasse sur la brique pilée orange, où ses chances de l'emporter sont beaucoup moins grandes que, par exemple, sur l'herbe de Wimbledon. Alors pourquoi revient-il sur terre battue cette année? Et pourquoi Madrid? Pour commencer, le joueur français Nicolas Mahut a sa petite idée.
Alors Madrid c'est un peu différent parce que c'est en altitude, il peut jouer de manière un peu plus offensive. Il a bien choisi ses tournois parce que Roland-Garros effectivement c'est une terre aussi qui va plus vite. Dans sa tête je suis pas sûr qu'il se dise voilà je vais là-bas pour battre Nadal et gagner le tournoi. Il sait très bien ce qu'il fait, il sera pas dans mes favoris. Il va y aller vraiment progressivement, plus les jours vont passer, plus il va monter en intensité et en charge de travail. Vous en faites pas pour Federer, dans la programmation c'est certainement le meilleur. Ce qu'il cherche c'est à trouver du rythme pour faire un bon Roland et surtout être plus en forme qu'il ne l'a été sur gazon l'an dernier.
Le joueur de tennis Nicolas Mahut avec Fabrice Abgral à l'occasion de ce tournoi de tennis à Madrid en Espagne.
La météo avec Air France et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas.
Cet après-midi, le ciel devient de plus en plus voilé jusqu'à devenir blanchâtre entre la Normandie, la Champagne, la Touraine et la Bourgogne, jusqu'au Massif central, aux plaines du Sud-Ouest et au Bas-Languedoc. Quelques ondées sont localement possibles mais resteront isolées. Ciel plus changeant entre les Hauts-de-France et les Ardennes avec quelques gouttes également possibles. Sur la façade Est, le voile nuageux est moins dense et le soleil se montre davantage. La Corse bénéficie même d'un après-midi ensoleillé. En revanche, entre la Bretagne, les Charentes et le Nord-Aquitain, les nuages se multiplient à l'avant d'une perturbation atlantique. Des pluies précoces peuvent déjà se produire cet après-midi, mais c'est surtout ce soir que le corps pluvieux de cette perturbation va arriver, s'accompagnant également d'un renforcement du vent. Côté température, les maximales se rapprochent des normales saisonnières cet après-midi. On attend 15 degrés à Brest, Strasbourg et Lille, 16 degrés au Havre et à Dijon, 17 degrés pour Paris, Nantes et Tours, 19 degrés à Lyon, Marseille et Ajaccio. On ira jusqu'à 20 degrés à Nîmes, 23 degrés à Toulouse et 24 degrés à Mont-de-Marsan.